BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi une sur BFM Business lors des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité du jour et la chute des prix du pétrole qui se poursuit après la signature officielle du protocole d'accord entre les Américains et les Iraniens. Le baril de Brent aussi ce midi autour des 77$. Les places boursières européennes sont en revanche plutôt mitigées, rattrapées par la perspective d'un durcissement de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine. En attendant donc sur le front diplomatique au Moyen-Orient, la signature à distance de l'accord entre les États-Unis et l'Iran n'empêchera pas la rencontre prévue demain en Suisse. Les émissaires américains et iraniens accompagnés d'autres pays, dont le Pakistan médiateur, discuteront de la mise en œuvre du protocole d'accord, texte qui prévoit donc notamment la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Enfin, un mot du trafic SNCF. Canicule oblige. On apprend aujourd'hui la suppression de 71 trains intercités qui devaient circuler entre aujourd'hui et lundi prochain. Sont touchées les lignes Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand et Bordeaux-Marseille. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur, et qui nous concerne aussi. D'ailleurs, à propos de ce pro de l'IMO du jour, on va parler de vous, les professionnels de l'immobilier. Comment vous sentez-vous en ce moment, ce contexte? Guerre au Moyen-Orient, renchérissement des coûts des matières premières. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes pessimiste? On verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Et là aussi, cette saison, on va reparler du logement étudiant. Que de questions! On en est où des tensions locatives sur ce logement étudiant? On verra qu'elles sont exceptionnellement fortes comme chaque année. Mais pourquoi comme chaque année? On verra aussi pourquoi. On verra si c'est mieux ailleurs, notamment en Espagne. Est-ce que c'est plus calme? Est-ce que c'est plus facile de trouver un logement étudiant quand on est en Espagne ou pas? Et puis, on essaiera de vous apporter des solutions à vous, étudiants, mais surtout à vos parents, à nous, parents. Comment on fait pour trouver une solution d'hébergement pour nos enfants? On verra ça dans quelques instants, mais d'abord, c'est donc l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Pauline Polgar, la directrice des rédactions de Bâti Actu.
Bonjour Marie.
Alors, je le disais, là en l'occurrence, on va parler de l'état de nos professionnels de l'immobilier, parce que vous l'avez mesuré à travers votre baromètre des assises du logement. Alors, on va le dire, c'est mit-mit, c'est partagé, Pauline.
Oui, c'est ça Marie, c'est tout à fait partagé. En effet, c'est un baromètre qu'on réalise chaque année à l'occasion des Assises nationales du logement et de la ville. La prochaine édition, c'est mardi prochain, le 23 juin, Palais Première à Paris. Et donc, comme vous le disiez Marie, les professionnels, c'est mitigé. Hein. Un professionnel sur deux se déclare vraiment pessimiste sur leur activité à venir. Alors c'est vrai qu'ils espéraient quand même une bouffée d'air avec la relative stabilité gouvernementale. Mais bon, on l'a vu, le contexte géopolitique s'est rappelé à nous et brutalement avec le conflit en Iran, les conséquences que l'on connaît. Et du coup, du jour au lendemain, avec le conflit, tout s'est un peu arrêté et ça explique quand même, je pense, le pessimisme actuel avec l'effet de crise en crise. Ce manque de stabilité et de vision pour les professionnels.
Et pourtant, Pauline, on pourrait presque dire qu'on pourrait s'y habituer. Il y a plusieurs de nos invités en plateau qui disent on est en contexte de permacrise, donc à un moment donné, on a l'habitude. Bref, si on devait lister ce qui fait que nos professionnels de l'immobilier sont pour moitié assez pessimistes, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, ces professionnels de l'immobilier, pour justifier leur pessimisme?
Alors, parmi leurs principales préoccupations, il faut bien sûr parler du prix des matériaux. On sait que ça, c'est quand même une conséquence directe aussi du conflit. Il y a aussi l'idée de l'accès du ménage au crédit. Voilà, ça les inquiète fortement, à 70%. Alors, on sait aussi sur cette accession au crédit, l'inflation, la hausse des taux, c'est un peu le combo impossible pour permettre l'accès au crédit des ménages avec les règles bancaires que l'on sait et qui ne changent pas. On a également la problématique de la simplification des normes. Ils sont vraiment très préoccupés par cela et espèrent beaucoup dans le prochain plan logement. Et l'accession à la propriété, sur les primes occident, les ventes dans le neuf. Voilà, c'est vraiment leur principale préoccupation aujourd'hui.
Alors Pauline, on va sortir un peu, même si effectivement elle est riche d'enseignement, il est riche d'enseignement ce baromètre. Mais enfin quand même, je le disais, ça y est, on a un accord au Moyen-Orient. Est-ce que finalement nos professionnels de l'immobilier qui étaient pour moitié pessimistes, c'est pas les optimistes qui vont finalement l'emporter dans ce contexte-là?
On l'espère Marie. C'est vrai que ce protocole d'accord nous fait espérer une issue prochaine de ce conflit, et donc une issue prochaine pour les professionnels aussi. Peut-être que les choses pourront se relancer, les investisseurs vont revenir. On peut parler un peu de l'investissement locatif privé. Voilà, c'est quelque chose qu'ils avaient réussi à arracher en début d'année, et juste au moment où ça sort, boum, le conflit arrive. Donc ça n'a pas permis à ce fameux dispositif Jeanbrun de décoller, même s'il n'était pas encore parfait.
L'est-il toujours?
Et c'est vrai qu'on le sait, voilà, certains regrettent quand même qu'il ne soit pas complet, notamment du côté de la maison individuelle. Mais les choses vont bouger normalement avec le prochain plan, qu'on espère pouvoir avoir assez rapidement dès la rentrée. On se rappelle que le plan de logement sera notamment adopté au Conseil des ministres le 24 juin, donc le lendemain des assises. Donc pareil, c'est un signe d'espoir.
Bah voilà, ce mot d'espoir, parce qu'effectivement, il ne fallait pas terminer sur nos 50% de pessimistes, restons sur nos 50%.
Ah bah non, on n'est pas comme ça, on espère. Et puis surtout, voilà, l'idée c'est qu'ils se retrouvent mardi justement pour discuter des solutions, pour montrer aussi qu'ils sont dynamiques et qu'ils ont plein de choses belles à raconter. Donc des retours d'expérience, de l'innovation, c'est tout ça qu'on verra mardi prochain aux Assises Palais Brongniart à Paris.
Eh ben c'est bien, maintenant le rendez-vous est pris. Merci Pauline. C'est important de le dire que nos acteurs de l'immobilier au sens large sont bien obligés de s'adapter à toutes les situations, qu'elles soient géopolitiques ou politiques intérieures, parce qu'effectivement ça n'avait pas bougé beaucoup ces dernières années, ou alors non, pas vraiment dans le bon sens. Merci Pauline. Pauline Polgar, directrice des rédactions de Bâti Actu, qui était avec nous ce matin. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Ce midi, hein, j'insiste, je ne sais pas pourquoi je me vois toujours le matin, mais il est midi 7, je vous l'assure, ça y est, c'est l'heure du déjeuner. Et pour déjeuner bien, on va parler d'un vrai sujet qui intéresse à la fois les parents et les enfants, en l'occurrence le logement étudiant. À mes côtés, David Benbassa, le président de Bien Ici. Bonjour David.
Bonjour Marie.
Et également avec nous, Geoffroy Rézor, le cofondateur de Terreta. Bonjour Geoffroy.
Bonjour Marie.
Alors oui, pour celles et ceux qui nous écoutent régulièrement, ils ont déjà vu Geoffroy sur ce sujet de l'Espagne. Et on va en parler parce qu'on va essayer de s'amuser à faire des comparaisons. Mais d'abord, on va être franco-français, David. Chaque année, à la même période, on se retrouve et on se dit c'est pire que l'année d'avant sur le logement étudiant. Il y a une énorme demande, il y a très peu d'offres. Ça en est où aujourd'hui ?
Alors ça s'arrange pas, mais je dirais que cette période étudiante n'est qu'un effet révélateur de la crise locative qui nous suit depuis des années. Si je regarde juste depuis 5 ans, l'offre de logements, le nombre de logements global a été divisé par 2,5.
Alloué, location, ouais.
Hein, et la demande a été multipliée par 2.
Ah oui, donc ça a fait tout le sens.
Exactement. Alors, depuis le début de l'année, début 2026, on a vu une augmentation un petit peu de l'offre locative globale. On s'est dit, tiens, ça va un petit peu mieux. Surtout que la demande baissait.
Oui, donc est-ce que ce n'est pas un premier indicateur de...
Exactement. Bon, on est quand même dans une problématique structurelle grave, on l'a dit rapidement tout à l'heure, avec moins d'offres de logements, une réglementation sur les DPE, bon, voilà, on attend le plan logement avec impatience,
ouais.
L'investissement locatif aussi. On parlait de confiance, il faut que la confiance soit auprès des agents immobiliers, mais aussi...
Des propriétaires bailleurs.
Exactement. Donc tout est là. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que on est quand même dans la crise la crise locative. En fait, est encore mis plus en valeur avec cette saisonnalité et cette demande beaucoup plus importante de logements, on va dire petite surface en France, pour ces fameux étudiants. Donc après, ça va dépendre des villes, ça va dépendre des tarifs, on peut parler
bien
de plein
sûr,
de choses.
Bien sûr, mais moi, il y a un truc que je trouve hyper intéressant dans ce que vous relevez très régulièrement, d'ailleurs chez Bien Ici, c'est l'idée qu'en plus de ça, les étudiants, là où ils n'ont pas de bol, c'est qu'ils convoitent des biens qui sont convoités par d'autres profils de locataires. Et c'est là où ils n'ont vraiment pas de bol.
Il y a une vraie bagarre dans la temporalité et dans le type de logement. Nous, ce que l'on voit, c'est que, effectivement, les logements qui sont présélectionnés, des studios et des deux pièces. Ça, c'est la cible en France. Hein. Et on voit aujourd'hui que ce n'est plus lié simplement au cycle universitaire. D'habitude, enfin, de mon époque, c'était à la fin de l'été qu'on commençait à regarder des logements étudiants.
Ouais.
Maintenant, le fonctionnement de Parcoursup déclenche de manière immédiate un afflux de demandes très très impressionnant et de recherches très impressionnantes dès le début juin. C'est-à-dire que les étudiants commencent à rechercher avant de savoir s'ils ont le bac. Je ne vais pas dire que le bac maintenant est à peu près donné à tout le monde, mais ça a décalé ça.
Non, ce n'est pas ce plateau-là qui...
et ensuite, ça vient se percuter de plein fouet en fonction des villes, par exemple dans les grandes villes, avec cette recherche de logement des jeunes actifs, des parents isolés, bref, tous ceux qui ont peut-être aussi des difficultés à trouver un logement. Et donc tout ça se percute de plein fouet sur cette période, et ça commence de plus en plus tôt, puisque ça commence dès le mois de juin.
Ouais, et alors vous avez constaté que dès qu'on a eu justement, et là il y a 15 jours, on a eu les premiers résultats de Parcoursup, et là d'un coup, boum, le trafic sur le site de Bien Ici a explosé, quoi.
Absolument, ça augmente de 20% d'un coup. Le volume de demande. C'est immédiat, on va dire le 4 au 5 juin, un peu plus la date, 3 ou 4, ouais. Bref, ça commence immédiatement, c'est impressionnant.
Est-ce que, alors je me retourne vers vous Geoffroy, parce qu'effectivement il y a des sujets franco-français avec cette tension, c'est bien qu'ils sont machin. Quand on a préparé l'émission, Farah qui travaille avec vous, que j'embrasse, m'a transféré quelques données et je trouvais ça hyper intéressant sur le côté, alors ça fait très auberge espagnole et cliché, mais est-ce que cette bataille sur le studio et les deux pièces, elle est aussi vraie en Espagne, aux mêmes périodes de l'année, avec les mêmes problématiques qu'en France?
Pas du tout. Ça, c'est, voilà. On en parlait avec David avant le plateau aussi, sur le fait qu'en Espagne, effectivement, il y a une culture de la colocation, pas uniquement sur les étudiants, mais notamment sur les étudiants. On disait, par exemple, un étudiant français qui va chercher en France un studio. En Espagne, la norme, c'est plutôt d'aller chercher une chambre au sein d'un appartement. Pour une raison de normes urbanistiques et de normes de construction qui est la suivante. En Espagne, il est quasiment impossible de construire des logements de moins de 40-45 mètres carrés. Alors qu'en France, par exemple, on disait un studio, c'est quoi, 20 mètres carrés, 25 mètres carrés,
etc. Ça peut même être moins, hein, à partir de 9 mètres carrés, vous en trouvez. Hein,
mais en Espagne, effectivement, c'est pas du tout la norme. Et si on regarde les portails d'annonces, donc les équivalents de Bien Ici côté espagnol, on va plutôt trouver des logements qui, de manière standard, commencent à 70 mètres carrés. Mais ouais. Les logements en dessous de 70 mètres carrés sont relativement rares. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu.
Ouais. Et du coup, en termes de tarifs, messieurs, on va rentrer dans le dur. Je commence par ce qui fait moins peur. Alors, on va rester en Espagne quand même, parce que ça fait quand même nettement moins peur après. Alors, du coup, Geoffroy, c'est ma chambre en colocation, elle revient. Alors, j'imagine, là aussi, forcément, ça dépend des villes.
Ça dépend des villes. Ce qui est assez intéressant, nous, on a, pour préparer l'émission, on a regardé justement le prix des chambres dans les 10 plus grandes villes étudiantes, et côté français et côté espagnol, pour arriver à comparer les deux pays. Et on a regardé aussi le prix à l'achat. Donc on a simulé sur 90 mètres carrés, en considérant que dans 90 mètres carrés, on fait une colocation 4 chambres, ouais. Combien ça coûte à l'achat, combien ça rapporte en loyer ou combien ça coûte en loyer selon de quel côté on est. Et c'est assez intéressant parce que les écarts à l'achat, si je prends Paris et Madrid, plus grosse ville étudiante française, plus grosse ville étudiante espagnole, Paris, un appartement de 90 mètres carrés, ça coûte 840 000 euros en moyenne, en prenant le prix au mètre carré meilleurs agents. J'ai pas regardé celui d'un ici.
Franchement, si vous trouvez du 90 mètres carrés à 840 000 euros à Paris, c'est pas dans le meilleur secteur parisien. Hein.
On est d'accord, mais prix moyen au mètre carré, prix meilleurs agents, c'est pas mon info. Donc on arrive sur 840. Par contre, le prix à la chambre à Paris, c'est 750 euros la chambre. Donc on arrive, si je compare à Madrid, le même logement de 90 mètres carrés, on va l'acheter beaucoup moins cher parce qu'au lieu d'être à 10 000 euros le mètre carré ou presque, on est plutôt à 6 000 euros le mètre carré. Mais par contre, le prix à la chambre, il est quasiment égal. Il est quasiment égal. Il est un tout petit peu en dessous, ce qui fait que la rentabilité locative, alors je sais, moi je suis côté investisseur.
Mais oui, mais vous avez bien raison. On a tout qui nous écoute, des parents qui veulent s'occuper de leurs enfants et d'autres qui veulent investir. Voilà. Et on verra qu'on pourra peut-être lier les deux.
Et donc, effectivement, quand on regarde ça, ça fait que sur le top 10, et ça, c'est vraiment la plus grosse conclusion, première ville contre première ville, deuxième ville contre deuxième ville, etc., jusqu'à la dixième, 10 à 0 pour l'Espagne en termes de rentabilité.
C'est-à-dire et on ne parle pas de la Coupe du Monde, hein, attention.
Donc c'est assez hallucinant de voir ça. On se rend compte que la rentabilité est vraiment nettement supérieure de l'autre côté des Pyrénées sur un sujet aussi bête que la colocation étudiante.
Bon, mais quand même, David, parce qu'à un moment donné, c'est bien de faire ses études en Espagne, c'est aussi bien de les faire en France. On a quand même beaucoup d'entre nous qui y cherchons pour nos enfants. Alors, quand on écoute ce que dit Geoffroy, est-ce qu'on peut avoir un panorama de ce qui se passe en France, je crois que là, effectivement, 700 euros et des bananes à Paris, je crois même parfois plus, c'est pas quand même la norme partout en France. Et heureusement, Paris n'est pas la seule ville étudiante de France.
Non. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas de stock dédié au logement étudiant. Ça n'existe pas. Hein. Ouais. Donc, tout le monde se partage le gâteau.
C'est ce que vous disiez sur cette ultra concurrence.
À part les résidences étudiantes. Mais j'ai regardé, il y a quelques jours, ce qui existait autour de Paris en termes de résidences étudiantes. J'en ai regardé 3 sur un volume global de 200 logements qui était à disposition.
Ce qui est déjà pas énorme. Hein.
Il n'y en a que 5 qui étaient disponibles en pleine période. Ça veut dire que même si le tarif est plus cher, hein, quand même sur des résidences, on est aux alentours de 800 euros pour une chambre parce qu'il y a du service, c'est quand même autre chose. Si on regarde moyenne France sur les loyers médians studio, on va être autour de 500 euros. Je vous ai fait une cote mal taillée.
Ouais,
mais ça veut dire que pour un étudiant qui va faire ses études à Angers, par exemple, qui va payer 500 euros, vous faites ça sur une moyenne d'étude de 3 ans, ça coûte déjà 18 000 euros. Si vous faites ce rapport avec le prix du bien d'un studio, eh ben, il y a match. Je prends l'exemple très simple. Saint-Étienne, je regardais avec Geoffroy tout à l'heure, Saint-Étienne. Prix médian du studio, 390 euros. Prix du studio à Saint-Étienne, moins de 50 000 euros.
Ah ouais.
Ça veut dire que...
À choisir, en fait, vous êtes en train de nous dire, David, très clairement, à choisir, au lieu de mettre 15, 20, parfois même 30 000 euros dans des loyers selon la durée d'étude des enfants, est-ce que ça ne vaudrait pas plus le coup pour le parent d'acheter le logement ?
Je vous le confirme. En tout cas, c'est à réfléchir. Pour peu que votre étudiant reste 5 ans, pour peu que vous ayez deux enfants et qu'ils sont dans la même ville, le match, il est plié. Donc, c'est votre serviteur qui peut vous le dire aussi. J'ai pas fait ce choix-là, je m'en mords les doigts. C'est-à-dire qu'il faut faire des enfants avec des âges plus serrés, comme ça, vous pouvez enchaîner. Mais faut vraiment réfléchir, effectivement. Et encore, quand on regarde juste le loyer, on n'a pas pris en compte non plus les autres dépenses. C'est-à-dire qu'il y a la dépense de nourriture, la dépense de transport, la dépense d'énergie et tout ce qui va dans, effectivement, les loisirs.
Non, mais c'est un truc qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je salue les amis du réseau L'Adresse et des agents immobiliers, notamment du côté d'Amiens, avec un témoignage que je trouvais hyper intéressant dans ce cadre-là, avec une famille. Alors là, pour le coup, la famille avait des moyens quand même assez confortables. Ils ont carrément acheté une petite maison de 55 mètres carrés pour leur fille, 130 000 euros. Mais l'idée, c'était de dire... Elle va faire des études de médecine, donc ils savent que ça va être long. Et ils se disent que derrière elle, ce sera la petite sœur. Et ils se disent qu'après la petite sœur, il suffira de le mettre à la location. Ça aussi, c'est le sujet de... Et je vous regarde du coup, Geoffroy, puisque votre sujet, c'est l'investissement locatif. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Oui, finalement, est-ce qu'au lieu de se taper la galère des sites d'annonces immobilières pour trouver le bien qui va être concurrencé par des jeunes actifs qui gagnent vraiment de l'argent alors que moi, je suis étudiant, la bonne solution, ça ne serait pas d'acheter, quoi.
Alors complètement, je pensais par exemple aux études effectivement de kiné ou de vétérinaire où pour le coup il y a des Français qui n'arrivent pas à passer les concours côté français et finissent en Espagne. Par exemple à Moncada qui est une ville pas très loin de Valence.
Pourquoi ils n'arrivent pas à passer les concours côté français
pour l'histoire de...
Alors ça c'est pas...
les quotas, etc. Bref.
Pas seulement de
compétences.
Il y a beaucoup de Français du coup qui se retrouvent à aller en Espagne pour faire leurs études en veto, kiné, etc.
Ouais.
Et c'est des études assez longues. Et effectivement, quand on regarde le prix du... Je reviens sur l'analyse de David, mais on peut faire la même. Hein. C'est aller dans une ville comme Moncada, par exemple, ça va être 400-450 euros la chambre par mois pendant 5 ans, versus acheter un logement autour de 200 000 euros dans lequel on fait 4 chambres. Ouais. En fait, c'est même mieux, c'est que si on achète le logement, admettons qu'on a une fille qu'on va loger là-dedans et qu'elle a 3 colocataires, du coup, les 3 colocataires payent la totalité du loyer. Et ma fille est gratuitement dans un logement pendant 5 ans. Ou alors sinon, je crame l'argent pendant 5 ans. Donc le match est assez simple.
Mais
si on a l'argent de le faire.
Oui, non, mais l'intérêt de la colocation est vraiment là pour les étudiants. En France, on a quand même cette problématique que le propriétaire bailleur va avoir un peu peur de cet effet
de colocation. De la responsabilité
de payer le loyer. Et puis de l'autre côté, pourquoi on marche aussi bien sur les étudiants avec les petites surfaces ? On a quand même des aides. Comme la CAF, même si ça a baissé,
mais
elle
oui,
existe.
Mais oui, les APL, bien sûr.
Et qu'aujourd'hui, ça permet de réduire un petit peu le montant du loyer, donc ça reste intéressant malgré tout.
Oui, et c'est là où finalement ce qu'on est en train de dire, parce qu'on conseille à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, évidemment, de se renseigner sur l'opportunité d'acheter versus louer, mais quand même, il y a des fois, il faut le dire, où c'est reste quand même plus intéressant de louer. Alors, des études plus courtes par exemple, mais pas que. Il y a aussi la possibilité pour les étudiants d'obtenir des aides au logement, les APL.
Absolument.
Ce qui permet quand même de réduire le coût affiché du loyer. Moi, j'ai eu pas mal de témoignages aussi de parents qui voulaient potentiellement qu'ils réfléchissaient à et puis qui finalement ne l'ont pas fait parce qu'ils ont pris en compte aussi les charges, la taxe foncière. On rappelle qu'il faut déclarer ses revenus locatifs quand l'idée derrière c'est de mettre à la location. Oui. Donc tout ça peut aussi faire peur à certains parents.
Et tout l'équilibre, effectivement, il faut faire ces choix-là parce que les APL ne sont destinés qu'à celui qui a le mandat.
Ouais.
Si vous êtes en colocation, le deuxième n'y a plus droit et ça change l'équilibre. Donc
intéressant.
C'est vraiment une étude à faire, mais qui vaut le coup dans certaines vies d'étudiantes, c'est sûr.
Messieurs, j'ai envie de vous poser cette question-là, c'est à quel moment on va se retrouver avec moins de tension ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'ait plus cette bagarre ? Et ces loyers qui, clairement, on ne va pas se mentir, quand on est au-delà des 800 euros, ou même à Madrid, au-delà des 700 euros pour une chambre quand même, qu'est-ce qu'il faut pour débloquer ce marché de la location étudiante ? Et que ce ne soit pas une course et une chasse tellement difficile.
C'est ce que je disais un petit peu en introduction, ce n'est pas seulement la problématique du logement étudiant, c'est la problématique de la location, du marché locatif locatif de manière générale. Il faut remettre de l'offre sur le marché, c'est un premier truc. Peut-être alléger la réglementation, le plan logement qui vise à décaler un petit peu les interdictions de location, d'interdiction de louer, ça peut être intéressant. Il faut remettre de l'offre sur le marché. Il faut permettre aussi aux investisseurs locatifs donc de se remettre sur le marché. Et il faut permettre aussi aux primo-accédants d'acheter.
Ouais. Le parcours résidentiel.
Voilà, le parcours résidentiel est à réfléchir globalement pour permettre de fluidifier tout ce marché.
Juste un point, à mon sens, ça ne va faire que de s'empirer. Alors, je sais pas pour.
Oh, l'optimisme.
Alors, je suis toujours positif.
Non, mais alors, c'est pas. Mais pour une raison assez simple, il y a 30 ans à peu près, le nombre de personnes vivant au sein d'un foyer, c'était en France et en Espagne, à peu près 4,55.
Ouais.
Aujourd'hui, on est en train de tomber entre 2 et 2,5 personnes par
foyer.
Parce
qu'il y a beaucoup de séparation, parce que
la population aussi étant vieillissante, on a effectivement un phénomène de décohabitation.
Ouais.
Si j'exagère un tout petit peu, on va dire que dans un appartement de 100 mètres carrés à Paris, avant, il y avait le couple avec ses trois enfants, et qu'aujourd'hui, il y a une vieille dame.
Il y a le couple vieillissant. Voilà.
Et maintenant, il y a une vieille dame qui vit toute seule.
Ouais.
Voilà. Mais donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sans même avoir de croissance démographique, simplement avec une population stagnante, vieillissante, il y a un phénomène de décohabitation qui met une pression juste comme ça sur sur tous les autres. Parce que tous les autres doivent aller se loger dans d'autres logements qui, par ailleurs, ne sont pas construits. Et alors, juste un chiffre qui est assez hallucinant. La crise de 2008, elle nous paraît lointaine, mais en même temps, il y a quand même encore des stigmates et des conséquences.
En Espagne, ça a été monstrueux.
En Espagne, il y a un chiffre qui vraiment me marque énormément. Avant la crise de 2008, l'Espagne construisait 800 000 logements par an. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'Espagne construit 80 000 logements par an, c'est-à-dire 10 fois moins. Ils n'ont jamais réussi à reconstruire un secteur qui a été absolument dévasté par la crise. J'imagine qu'en France, même si les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, il y a aussi ce phénomène où la construction...
Après, Geoffroy, permettez-moi d'un mot, parce qu'il me semble qu'en Espagne, les règles n'étaient pas exactement les mêmes, qu'on pouvait lancer la construction de n'importe quoi, n'importe où, sans avoir pré-commercialisé, et qu'au final, quand à la fin, il n'y avait plus d'acheteurs, on se retrouvait avec des squelettes. Je me souviens de la côte méditerranéenne, avec des squelettes de début de construction. Laissée à l'abandon parce que bah il y avait personne derrière.
Enfin, alors ils ont fait une spécialité, c'est les villages fantômes au milieu de nulle part qui n'intéressaient personne. Mais moi, on va dire que ce qui nous intéresse en particulier sur les investissements étudiants ou les locations étudiantes, c'est les grandes villes.
C'est les centres-villes.
Voilà. Et de toute façon, dans les centres-villes, déjà à l'époque, on pouvait pas construire dans ces centres-villes-là. C'est ce qu'on dit toujours sur Paris, hein, c'est que finalement intramuros, il peut pas se passer grand-chose parce qu'il y a
surélévation. Voilà. Un jour, faudra qu'on en reparle. Voilà, c'est la seule solution.
Ouais. Mais par contre, effectivement, il y a un sujet par rapport à ça, c'est que les problématiques de construction, on parlait juste avant des coûts de construction, sont telles que, en fait, si on y réfléchit, la situation ne va faire que de s'empirer avec ces phénomènes de décohabitation. Et un dernier point, le nombre de foyers en Espagne va augmenter de 5 millions d'ici 20 ans, juste avec les projections démographiques et de décohabitation. Donc 5 millions de foyers en plus, s'ils n'arrivent pas à construire 5 millions de logements en plus, la tension locative fait que d'augmenter.
Le chiffre en France de rigueur, c'était il faut au moins 500 000 logements pour alimenter le marché. On n'y est jamais arrivé.
Ouais. Si, à la fin du mandat de François Hollande, pour le coup, c'est vrai. Hein,
La réalité, c'est que effectivement, moi, je veux être optimiste. Le gouvernement on a l'impression qu'ils ont pris la mesure du sujet, que de toute façon, si on fait rien, ça va s'empirer, c'est sûr. Donc, on a quelques pistes d'optimisation. Maintenant aussi, il faut repenser la ville, son aménagement. On l'a dit, dans les grands centres urbains, plus possibilité, à part effectivement potentiellement. Après, on peut s'élargir un petit peu et aller autour des grandes villes, mais il faut mettre en place absolument l'aménagement du territoire pour amener du transport
en commun, etc. Mais d'ailleurs, David, justement, parce qu'il nous reste que 3 minutes et je sais, le temps passe très vite, on a donné des conseils à celles et ceux qui cherchent un logement étudiant, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Comment je fais ? C'est-à-dire, au-delà du fait d'acheter, si vous le pouvez, si vous en avez les moyens, si votre banque vous accorde un crédit, faites-le d'ailleurs à crédit si vous pouvez le faire. On en parlait avec Stéphane Descartes hier qui me disait, n'oublie pas que derrière, on peut déduire ses intérêts d'emprunt quand le bien sera mis à la location. Donc, si vous avez l'intention de le faire, n'hésitez pas à le faire à crédit quand bien même vous avez quelques économies. Bref, quels sont les petits conseils qu'on peut donner à nos étudiants et à leurs parents pour trouver chaussures à leurs pieds ?
Alors, déjà, ne perdez pas de temps. Préparez votre dossier tout de suite, c'est-à-dire qu'avant de faire quelques recherches que ce soit, préparez votre dossier de location. Et on l'a vu, j'en parlais tout à l'heure avec Parcoursup, dès que vous avez à peu près une idée de l'endroit
vous
auquel votre enfant va atterrir, allez-y, déplacez-vous, ne perdez pas de temps, passez des dossiers. Votre enfant aura le bac. Voilà, c'est sur la majorité des notes est sur dossier. Donc ne vous inquiétez pas et foncez, déposez le dossier. Ne perdez pas de temps.
Visal, pour ceux
bien sûr,
qui n'ont peut-être pas les super garants qu'il faudrait.
Absolument, ça marche très bien. Donc il faut s'appuyer sur le fait de valoriser son dossier au maximum.
et s'éloigner un peu si c'est vraiment trop cher à l'intérieur de la grande ville. Quand même.
Voilà, on en revient à l'équilibre financier, ouais. C'est-à-dire que le temps et l'argent qu'on va dépenser dans les transports et dans l'énergie, c'est celui qu'on mettra pas dans le loyer un peu plus.
Mais... Oui, donc il faut vous dites calculons quand même. Hein, voilà. S'éloigner, ça peut être intéressant, mais attention que les transports suivent derrière. Quoi.
Et ne soyez pas trop exigeants au début. Vous savez que la première année, il se passera des choses, la deuxième année aussi, donc vous aurez le temps de bouger. Déjà. Permettez à votre enfant de se positionner près de son lieu d'études. Ouais. Ça, c'est le plus important.
Et sinon, Geoffroy, votre conseil pour terminer, partir en Espagne, faire une coloc en Espagne?
Investissez, clairement. Et sauf dans les deux capitales, Paris et Madrid, où l'équilibre peut être, ne pas être évident entre louer et acheter, dans quasiment toutes les autres villes, la réponse est acheter. Ça vous coûtera moins cher.
Votre chouchou, c'est Valence, hein, en Espagne, je le dis d'avant, je sais.
Mon chouchou, c'est Valencia, effectivement. Parce que
alors, moi, j'aime bien Barcelone, mais bon, chacun son truc.
Chacun son bébé.
Merci, messieurs. J'espère qu'on vous aura apporté quelques solutions et quelques indications sur ce marché étudiant. N'hésitez pas, effectivement, à partir très en amont à la recherche de ce logement. On le rappelle, hein, ultra concurrent sur ces studios et ces deux pièces. Moins de colocs qu'en Espagne, en France. Donc, quand même, il y a des choses à chercher et à améliorer. On restera optimiste, quand même. Geoffroy Reiser, cofondateur de Terreta, était avec nous, et David Benbassal, président de Bien Ici. Je vous retrouve demain sur BFM Business pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.